C'est le temps de la défaite. Les mots de Joe Biden 48 heures après la victoire de Donald Trump. Il devra laisser son bureau ovale aux républicains. Kamala Harris, ce mercredi, a avoué sa défaite en appelant à continuer la lutte. Mais elle n'a pas expliqué les raisons de son échec. Bienvenue dans le Washington Briefing. Salut Thierry.
Salut Yves.
T'es éditorialiste politique internationale, t'es en ce moment à New York. Salut Benoît.
Salut Yves.
Tu es correspondant aux États-Unis, tu es à West Palm Beach en Floride en ce moment, près de la résidence de Donald Trump. C'est quoi l'ambiance là-bas, deux jours après son élection ?
J'ai l'impression que c'est très studieux. Très studieux, pourquoi ? Alors tu vas voir, je ne sais pas si tu arrives à percevoir. Donc là, c'est, tu vois tous ces palmiers, c'est la résidence de Donald Trump. Il y a beaucoup de voitures sur le parking, plusieurs dizaines de voitures, donc ça veut dire qu'il y a du monde à l'intérieur de la résidence. Studio aussi parce que c'est assez inhabituel, mais Donald Trump, il vient de passer plus de 24 heures sans le moindre tweet, sans la moindre publication sur son propre réseau social, sans la moindre conférence de presse, sans la moindre caméra autour de lui. Même ses conseillers hein, qui gèrent sa communication n'ont pas publié de photos du président, donc du président nouvellement élu, hein, pas encore investi. Et studieux parce qu'il a du travail, Donald Trump. Il lui reste que 74 jours avant d'être donc investi président, avant cette passation de pouvoir avec Joe Biden. Et il faut qu'il constitue son cabinet, son gouvernement, son administration. Alors il a certes ses ministres évidemment à nommer, son chief of staff, son directeur de cabinet, mais il faut aussi qu'il nomme entre 3 et 4 000 fonctionnaires qui seront chargés de faire fonctionner son administration. Et donc, pour tout ça, il a 74 jours, pas un de plus, parce que au 20 janvier, Donald Trump va récupérer les clés des mains de Joe Biden de la Maison-Blanche.
Tu vois qui dans son gouvernement on peut imaginer qui dans l'équipe Trump ?
Il y a deux noms qui circulent beaucoup et qui ont déjà été en quelque sorte annoncés par Donald Trump. Le premier, on en a énormément parlé ces dernières semaines, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, patron du réseau social X, anciennement Twitter, patron de SpaceX qui envoie donc des fusées dans l'espace et des satellites, et patron de Tesla, les voitures donc électriques qu'on voit de plus en plus partout et surtout ici aux États-Unis. Lui, il serait chargé, on reste au conditionnel pour l'instant, mais Donald Trump l'a déjà beaucoup annoncé, on va voir ce qu'il en est dans les jours à venir, mais il devrait être chargé de mener un gigantesque audit de justement du fonctionnement des agences fédérales du gouvernement en quelque sorte américain. Et d'après Donald Trump et d'après Elon Musk, il serait possible d'économiser 2000 milliards de dollars. Alors essentiellement de ce qu'on comprend en licenciant des personnes, en évitant des doublons dans des agences, en considérant que certaines tâches effectuées par des agences gouvernementales n'ont pas d'intérêt et qu'on peut s'en passer. Et ces économies ont été présentées comme très importantes par Donald Trump pour pouvoir permettre de financer des coupes dans les impôts et d'autres politiques qu'il a promis durant sa campagne. Il y en a un autre dont on entend aussi beaucoup parler et qu'on a vu récemment effectivement aussi investi aux côtés de Donald Trump, c'est Robert Kennedy Jr., le neveu de l'ancien président américain. Lui, il est pressenti et il souhaite le faire. Il s'est déjà prononcé sur de nombreux sujets liés pour avoir un rôle très important à la santé. Robert Kennedy Jr., c'est quelqu'un qui était plutôt, il y a quelques années, très investi dans la lutte contre les problèmes liés à l'environnement, la santé des enfants ici aux États-Unis. Maintenant, c'est quelqu'un qui est vaccino-sceptique, c'est quelqu'un qui a validé des théories conspirationnistes expliquant que les vaccins pouvaient être responsables de l'autisme chez certains enfants. Voilà, c'est quelqu'un qui a des prises de position vraiment extrêmes, vraiment, vraiment dérangeantes et qui vont souvent à l'encontre de la science et du consensus scientifique. Donc voilà ces deux noms les plus connus, on va dire, hein. Elon Musk, Robert Kennedy Jr., qui pourraient faire partie d'un cabinet de Donald Trump version 2.0 2024.
Benoît me disait qu'il voyait donc Elon Musk et Robert Kennedy Jr. dans le gouvernement Trump. Toi, tu vois qui d'autre?
Alors, il y a. J'ai envie de commencer par te dire que c'est vraiment très différent de ce à quoi on a assisté il y a 8 ans. Quand Donald Trump il est élu en 2016, il arrive à Washington et il est vraiment comme le lapin dans les phares de la voiture. D'abord, il est étonné d'avoir gagné. Ensuite, c'est un milieu qui lui est totalement étranger. Il n'a pas les codes, il n'a pas les réseaux, il ne sait pas comment fonctionnent les outils du pouvoir. Là, c'est exactement l'inverse. Il a les codes, il a les réseaux, il sait exactement comment fonctionnent les outils du pouvoir. Et donc, il est prêt à gouverner. Et il est prêt à gouverner de manière assez avancée, hein, c'est-à-dire qu'il s'y prépare, y compris dans le recrutement, on va y venir, pour exercer le pouvoir de manière vraiment assez intense dès le premier jour. Alors, qui, outre ces deux-là, qui sont les noms qui reviennent beaucoup, il y a par exemple des revenants comme Mike Pompeo, qui était secrétaire d'État dans son premier gouvernement, qui pourrait aller à la défense. Il y a Marc Rubio, qui est ce sénateur de Floride, qui était un candidat potentiel à la vice-présidence pour éventuellement aller au département d'État. Il y a Doug Burgum, qui est le gouverneur de Dakota du Nord, qui pourrait hériter de l'énergie. Et puis, il y a Ken Paxton, qui est, par exemple, l'attorney général, le procureur de l'État du Texas, qui pourrait hériter de ce ministère très important de la justice, qui va être extrêmement sensible, parce que tu sais que Donald Trump, il arrive à la Maison-Blanche, c'est quelqu'un de rancunier, Donald Trump. Et donc, il arrive aussi à la Maison-Blanche avec des comptes à régler. Et il veut régler ses comptes avec le ministère de la Justice, il veut régler ses comptes avec le FBI, dont il veut faire une agence totalement dépendante du président américain. On ne sait pas jusqu'où il va aller dans cette direction-là, mais en tout cas, il a manifesté cette intention. Et puis, dernier point important, si tu me permets, c'est la famille. C'est toujours important pour Donald Trump. Ça ne sera pas exactement les mêmes membres de la famille que la dernière fois, où on avait vu en particulier sa fille Ivanka et son gendre Jared Kushner, très en pointe sur le gouvernement des États-Unis. Là, on s'attend à voir Don Jr., son fils aîné, jouer un rôle très important. Ça a déjà été le cas dans la campagne. Il a notamment assez largement contribué au recrutement de J.D. Vance comme candidat à la vice-présidente. Il y a Lara Trump, qui est l'épouse de son fils Eric, qui est désormais la patronne du parti républicain. Il y en a d'autres. Encore une fois, la famille Trump sera également au premier plan à la Maison-Blanche pour gouverner le pays au cours des 4 prochaines années.
Donald Trump, qui doit passer beaucoup de temps au téléphone en ce moment, il a reçu aussi un coup de fil de Kamala Harris hier pour qu'elle le félicite pour sa victoire. T'as écouté le discours de Kamala Harris, qu'est-ce que t'en retiens ?
Un discours assez poignant, je trouve, sur la forme. Effectivement, elle remercie toutes les personnes qui ont fait campagne pour elle, tous les militants, tous les bénévoles, tous ceux qui ont cru en elle et en sa campagne. Elle a cette anecdote à la fin qui fait un petit peu frissonner, on peut le dire, où elle parle de cet adage qui dit que c'est quand les heures sont les plus sombres que l'on voit les étoiles et la lumière dans le ciel. Voilà. Voilà, une fois qu'on a dit ça, qu'on a parlé de la forme, il y a quelque chose qui frappe, c'est qu'elle ne se justifie absolument pas. Il n'y a aucun regret, il n'y a aucun examen de conscience, alors peut-être que ce n'est pas encore l'heure, en tout cas, aucune remise en question, aucune explication de sa défaite, qui est quand même cinglante. Hein. On ne parle pas d'une défaite à 0,2 ou 0,3%. Donald Trump, on attend encore les résultats dans le Nevada et dans l'Arizona, mais en passe de remporter l'ensemble des états clés, des états pivots. C'est une vraie claque pour les démocrates. Et pour l'instant, il n'y a pas d'examen de conscience public, en tout cas de Kamala Harris et de Joe Biden, même s'il y a quelques voix qui s'élève, comme Bernie Sanders, le sénateur indépendant, mais donc très à gauche, qui a expliqué que ce n'était pas surprenant, qu'il ne fallait pas s'étonner que les démocrates aient perdu face à Donald Trump, puisqu'ils avaient, selon lui, délaissé les working class, les classes populaires américaines depuis plusieurs années.
Tu as écouté le discours de Joe Biden. Qu'est-ce que tu retiens de ce discours ?
Écoute, je pense qu'il y a vraiment trois choses importantes à retenir du discours de Joe Biden. D'abord, et comme on l'a entendu dans la bouche de Kamala Harris hier, la volonté vraiment très marquée d'insister sur le fait que tout est fait de leur côté pour que la transition se passe bien, dans le respect des équipes de Donald Trump, en ouvrant les portes et les dossiers, et en faisant en sorte que ça se passe de manière apaisée. Il y a évidemment un message politique là-dedans très fort, c'est que c'est une façon de marquer le contraste avec la manière dont Donald Trump s'est comporté lui-même en refusant de faire la même chose il y a 4 ans, en n'appelant pas Joe Biden pour le visiter, en ne le recevant pas à la Maison-Blanche, et même en quittant la Maison-Blanche avant même que son successeur arrive. Et donc ça, du point de vue de Joe Biden, c'était très important de faire passer ce message d'apaisement, mais en creux, il y avait quand même aussi, évidemment, une critique politique et une façon vraiment de pointer la différence avec son prédécesseur. Le deuxième point qui était très important, c'était le message adressé à son camp, aux démocrates, qui consistait à dire, voilà, on a perdu, c'est clair, on a perdu. Pour autant, il ne faut pas baisser les bras. C'est le jeu de la démocratie. Et on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre, en quelque sorte. Il faut absolument continuer à se battre pour ce en quoi on croit. Les journées sont longues et il y a peu de sommeil, donc je commence à bafouiller. Ce pourquoi on croit. Et donc, voilà, il y a encore des batailles à livrer et il ne faut pas lâcher l'affaire. Et puis, le troisième point, je pense qu'il est, pour le coup, vraiment très important aux yeux de Joe Biden aussi. Il a été rapide, mais il a vraiment, j'allais dire, avec ardeur, défendu son bilan. Il y a vraiment, chez les démocrates, singulièrement à la Maison-Blanche et singulièrement chez Joe Biden, une sorte de sentiment d'injustice, si tu veux. Et d'ailleurs, c'est assez frappant, en fait, ce contraste entre le message qu'ont envoyé les Américains dans cette élection où majoritairement ils ont voté pour l'économie, ils ont voté pour manifester leur colère sur le sujet de l'inflation en particulier. Est-ce que tu lis dans les journaux tous les jours sur l'état prospère de l'économie américaine, le Wall Street Journal qui fait des articles dithyrambiques, c'est pas un brouillon d'extrême gauche, le Wall Street Journal, pour dire que l'économie va formidablement bien et que le président sortant laisse en héritage vraiment une économie qui est partie sur une très bonne lancée à son successeur. Et donc ça, Joe Biden a le sentiment, qui est sans doute en partie assez juste, que, toutes les réformes de fonds qu'il a fait, par exemple les investissements massifs dans les infrastructures, tout ça, ça va porter ses fruits dans les mois et dans les années qui viennent, et qu'au fond, l'histoire revisitera son bilan peut-être d'une manière assez, assez différente. Donc voilà, je pense qu'étaient les trois idées essentielles à retenir de ce discours de Joe Biden.
Tout à l'heure, Joe Biden va parler, peut-être qu'il en parlera justement des raisons de la défaite de Kamala Harris. Toi, comment est-ce que tu l'expliques, cette défaite? Est-ce qu'il y a un élément ou quelque chose qui permettrait de le comprendre?
Non, je pense qu'il n'y a pas un élément en particulier, il y en a plusieurs. D'abord, le fait que Kamala Harris commence sa campagne très tard. Elle a eu 107 jours pour faire campagne, c'est extrêmement court. Elle n'a pas eu forcément le temps de bien se faire connaître des Américains. Et le pendant de cette question et de ce point, c'est que Joe Biden a mis beaucoup trop de temps à finalement à se désister de cette course à la Maison-Blanche, alors qu'on savait depuis longtemps qu'il était... vieux, ça c'était une surprise pour personne, et lui a tardé à prendre sa décision parce que il expliquait, il en était convaincu qu'il était le candidat le plus à même de remporter un combat face à Donald Trump. Il a fini par changer d'avis, mais effectivement, vraisemblablement trop tard. Ensuite, il y a la question de la nomination de Kamala Harris. Il n'y a pas eu de primaire ouverte côté démocrate, donc il n'y a pas eu de quelque part de spectacle où les Américains auraient pu, tu sais, avec des débats, entendre parler des différents candidats. Kamala Harris a été désignée par Joe Biden. Il y a eu un consensus très rapide niveau au sein du Parti démocrate, mais il n'y a pas eu vraiment de compétition où on aurait pu entendre parler de tout le monde et effectivement voir s'il y avait des personnes un peu plus qui avaient plus de chances de l'emporter que Kamala Harris. La vice-présidente, voilà, elle est vice-présidente, donc c'était aussi un poids pour elle, le fait de faire partie de cette administration qui a été énormément critiquée parce que, sans que ce soit forcément de la faute de Joe Biden et de Kamala Harris, mais il y avait cette inflation post-pandémie qui a fait beaucoup de mal. Et puis, il y a aussi des messages qui n'ont pas vraiment imprimé, comme on dit ici. Kamala Harris, elle a fait une campagne très prudente avec des éléments de langage. « When we fight, we win », « Quand on se bat, on gagne », mais ça ne voulait pas dire grand-chose. Et en face, il y avait quand même un Donald Trump qui, même si on le décrivait côté démocrate comme dérangé, même si on sortait des témoignages qui laissaient entendre qu'il avait souhaité avoir des généraux, qui soient les généraux avec la même loyauté qu'Hitler, qu'il avait une admiration pour le dirigeant nazi, finalement, Donald Trump, il est arrivé à convaincre les Américains qu'il était le plus à même de les aider, de leur rétablir un pouvoir d'achat qui leur manquait il y a 4 ans. Ça, c'est une, une phrase qui était toute simple et qui a parlé à beaucoup de monde. Quand il commençait ses meetings, Donald Trump, il disait « Are you better off now than 4 years ago ?» Est-ce que vous êtes mieux loti aujourd'hui qu'il y a 4 ans ? La réponse, c'était toujours non. Donc, si tu veux, il y a eu cette opposition entre finalement une campagne assez prudente, assez timorée et à la fois très courte de Kamala Harris et en face, Donald Trump, le bulldozer qui, voilà, on avait beau le critiquer, il faisait son chemin, il avait son programme, ses éléments de langage, certes extrêmes, mais qui parlaient et qui ont effectivement parlé aux Américains.
Comment est-ce qu'on peut expliquer, parce qu'il n'en a pas tant que ça parlé non plus, Joe Biden, la défaite de Kamala Harris face à un Donald Trump raciste, misogyne? Est-ce qu'en fin de compte, les États-Unis étaient prêts à élire une femme noire à la Maison Blanche?
Je crois qu'ils ont en fait, c'est plus profond que ça. Alors, ce qui est d'abord frappant, c'est qu'il y a beaucoup de divergences dans la manière dont les démocrates interprètent cette défaite, et c'est un peu normal, ils sont tellement sous le choc. Il y a ceux qui te disent elle ne s'est pas assez distancée de Joe Biden, il y a ceux qui te disent exactement le contraire, elle aurait dû montrer tout ce qu'il y avait de positif dans l'accomplissement du président et le mettre davantage à contribution. Il y a ceux qui t'expliquent qu'elle est allée trop à gauche et que donc elle n'a pas assez pu récupérer de républicains modérés. Il y a ceux qui te disent exactement l'inverse, elle est allée chercher les républicains, elle a eu le soutien de Liz Cheney et par conséquent, elle a perdu sur la gauche. Alors, ils sont vraiment perdus quelque part. Et ce que nous dit le résultat essentiellement, c'est à quel point finalement ces démocrates, ils ont totalement perdu le contact avec une grande partie de leur électorat, avec une grande partie de ce qui constituait leur base. Et ils s'en sont évidemment pas rendu compte. Et du coup, ils n'avaient pas du tout la bonne stratégie de campagne et le bon message. Ce qui est vraiment frappant, c'est pourtant ils étaient vraiment sur le terrain et davantage que Donald Trump. Tu vois, les démocrates, ils expliquaient par exemple que lundi, le dernier jour de la campagne, sur l'ensemble de la journée, ils sont allés frapper sur 800 000 portes dans les États-clés. Mais tu te demandes sur quelles portes ils sont allés frapper, en fait, parce qu'il y a un tel rejet de la part de l'électorat populaire, de la classe ouvrière, de la part des latinos en particulier, même de la part d'une partie de la communauté noire américaine. Donc, c'est vraiment une débandade généralisée. Ce qui est vraiment frappant, c'est qu'en fait, Trump a surperformé partout, dans la ruralité, là où il était déjà très fort, les comtés les plus conservateurs, mais il progresse dans les villes, il progresse dans les banlieues, il progresse, on le disait, auprès des minorités, il progresse auprès des hommes, finalement auprès des femmes. Tu te souviens, on en a beaucoup parlé parce que c'est ce que nous renvoyaient les sondages, l'idée que Kamala Harris était une femme, sa position très forte en faveur du retour du droit à l'avortement allait l'avantager auprès des femmes. Finalement, au bout du compte, elle ne fait pas mieux auprès des femmes que Joe Biden il y a 4 ans. Donc il y a vraiment une crise d'identité profonde pour le Parti démocrate, même si on pourrait y revenir si tu veux, il y a quelques signes qui sont intéressants à relever et qui montrent que tout n'est pas perdu pour eux. Mais il y a vraiment un énorme examen de conscience à faire, une remise en cause totale à la fois du positionnement politique, du message et de la stratégie de terrain pour les prochaines élections.
Merci beaucoup Thierry Arnaud et merci pour cette magnifique vue de New York.
Avec plaisir, merci à vous.
Merci beaucoup. Benoît, tu vas rester combien de temps là-bas encore à Mar-a-Lago ?
Écoute, j'attends le coup de fil de mon rédacteur en chef pour savoir si on reste et combien de temps on reste avec Caroline Bertolino et les autres équipes sur place. Ce qui est certain, c'est que on attend une première prise de parole, une première image de Donald Trump, mais on n'a pas les clés de son cerveau et de sa stratégie politique. Donc on va voir combien de temps tout ça va prendre. Il est possible que je rentre à Washington d'ici là, mais dans tous les cas, on continue de se parler dans le Washington Briefing.
Très bien, merci beaucoup Benoît, bon courage et à demain. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Washington Briefing. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application de BFM TV. À demain.